Bonjour et bienvenue sur le tout premier podcast d'Underscores, format que nous inaugurons aujourd'hui à l'occasion des 10 ans du site. Je suis en compagnie d'Olivier Desbrosses et Florent Bou, cofondateurs. Première question pour vous messieurs, comment est venue l'idée d'Underscores.fr?
L'idée d'Underscores est née au cours de l'année 2007. Nous étions en route pour le concert de John Barry à Auxerre et dans la voiture, c'est amusé un petit peu à imaginer si on faisait un site, comment il s'appellerait, qu'est-ce qu'on mettrait dedans, etc. Et puis ça en est resté là en fait finalement. Et quelques mois plus tard, je crois que c'était en mois d'avril 2008, Olivier m'a proposé finalement de franchir le pas, de mettre en route ce qui pouvait être d'abord un blog et puis ensuite qui est devenu un site. Et puis on a commencé à travailler dessus. Olivier s'est occupé de tout ce qui était partie technique, ce qu'on pouvait faire, ce qu'on pouvait imaginer pour lancer le site, et j'ai commencé à écrire.
J'ajouterais simplement que l'envie était déjà là avant. Évidemment, on n'a pas envisagé ça tout de suite. On s'était rencontrés d'abord en 2000 avec Florent à l'occasion d'un concert de Jerry Goldsmith à Londres. Il y a eu aussi un concert d'Ennio Morricone la même année. Et il y a surtout eu Lunéville l'année suivante pour le second concert de Michael Kamen où on a fait ensemble, en se croisant presque par hasard sur le site, notre première interview à tous les deux, qui était celle de Michael Kamen, que vous avez certainement lu puisque c'est une des premières choses qu'on a publiées sur le site quand on l'a lancé. Et donc, en fait, il y avait depuis longtemps cette envie de faire un magazine papier qui traitait de musique de film et qui le faisait un peu à notre façon, avec notre manière de voir les choses et d'organiser les choses, qui était peut-être un peu différente de ce qui se faisait par ailleurs à l'époque. Et du coup, on a caressé cette idée-là pendant assez longtemps, tout en sachant que de manière assez pragmatique, c'est quand même assez compliqué, assez coûteux de faire un magazine, de tenir les délais, etc. Et comme le net était vraiment en train de prendre son envol à ce moment-là, c'était une solution plus raisonnable. Cela dit, on a lancé ça pour nous, d'abord, sans avoir vraiment envisagé l'ampleur que ça allait prendre après.
Vous donnez naissance à ce magazine en ligne en 2008. Il y avait une raison particulière pour cette date?
Entre le moment où on a commencé à se dire vraiment on va le faire et qu'on a mis la machine en route, alors c'était vraiment ma partie de développer quelque chose qui au départ, comme disait Florent, était plutôt un concept de blog avant d'évoluer très vite vers plutôt un site, ce qui nécessitait beaucoup plus de travail puisque ni l'un ni l'autre on ne connaissait rien du tout à la conception de site internet. Donc il a fallu s'y mettre, il a fallu apprendre, et j'ai passé beaucoup de temps à faire des essais plus ou moins catastrophiques. La première version du site d'ailleurs, pour ceux qui étaient là déjà à l'époque, c'était pas super glamour. Puis ça a évolué doucement au fil des années, parce que j'apprenais un peu plus à servir des outils. Mais au départ c'était un projet de deux personnes, et on l'a lancé en septembre 2008, le 11 septembre. On avait lancé en même temps un forum de discussion. Et ce qui est intéressant, c'est que jusqu'à présent, le forum le plus fréquenté par tout le monde en France, c'était Trackzone. Et par hasard, alors qu'on avait déjà commencé à développer le site internet, même s'il n'était pas encore publié, le site de Trackzone et son forum ont fermé en juin de la même année. Et ce qui s'est passé, c'est que quand on a ouvert notre propre site, toutes les âmes perdues qui n'avaient plus d'endroit où discuter sont tout de suite arrivées. On avait communiqué autant qu'on pouvait, on avait pas mal d'adresses mail de pas mal de gens, et ça s'est peuplé très vite en fait, puisque tout le monde n'attendait que ça, c'est-à-dire un endroit où pouvoir continuer à échanger sur la musique de film. Toute proportion gardée dans le petit monde de la musique de film, qui est quand même assez réduit, mais c'était un lancement assez réussi, on va dire.
Et à votre avis, la communauté des amateurs de musique de film vous a immédiatement identifié comme étant le magazine qui leur permet de trouver une tribune, un endroit d'expression?
Je crois qu'on a tout de suite été considérés comme des gens qui faisaient ça par passion, avant toute chose. C'était vraiment ce qui nous motivait, comme l'a dit Olivier. Et je crois que c'est vraiment cette volonté de communiquer par rapport à ça, d'aller plus loin, de chercher à donner des clés ou des pistes de réflexion sur la musique de film. Je crois que tout ça, c'est venu très très vite, en fait, dans notre manière de vouloir faire le site. Et je pense que les gens ont très vite adhéré à cette manière de voir, en fait. Le terme passion est vraiment le terme qui définit le mieux, je pense, la création d'Underscore.
Dans la mesure où ce magazine représentait une nouvelle voie, peut-être une manière différente de parler de musique de film, y a-t-il des rubriques que vous avez souhaité mettre en place immédiatement avec la naissance du site? Est-ce que l'objectif du site, c'était juste de proposer au départ des critiques, ou est-ce que vous aviez déjà le projet d'aller plus loin que ça?
C'était pas aussi réfléchi que ça. dans le sens où ce qu'on voulait, c'était parler de musique. On voulait parler de musique déjà pour nous, entre nous, de parler autant aux néophytes qu'aux fans qui sont un peu plus versés dans la chose. Ça a été un peu plus long à faire passer, mais de parler aux professionnels, aux gens du milieu. Et ça, on l'a fait avec tous les moyens qui étaient à notre disposition. Donc, il y avait de la critique, il y avait de l'analyse de score, il y avait, dès le départ, des interviews. On a commencé un peu, au tout début, pour avoir un peu de matière, à recycler des choses qu'on avait faites avant. Donc, moi, j'ai recyclé des choses que j'avais faites dans le temps pour Mad Movies, quelques articles que j'avais écrits, qui n'étaient pas forcément parus, d'ailleurs, dans Soundtrack Magazine. Florent, il y avait Cinéscore.
Oui, j'ai pas repris des choses directement de Cinéscore, mais j'avais repris notamment plusieurs dossiers que j'avais fait pour Colonne Sonore, qui était un autre, pour ceux qui se souviennent, peut-être dans les années 90, effectivement, il y avait Cinéscore sur la ville de Caen, c'est là où j'ai commencé. Et ensuite, il y a eu un autre fanzine à l'époque qu'on avait lancé avec une partie de l'équipe qui s'appelait Colonne Sonore. On avait fait quelques numéros papier jusqu'en 2002-2003 de mémoire. Et effectivement, j'avais écrit quelques gros articles dessus que j'ai repris pour Underscore au début.
Et puis assez rapidement, on n'a plus été deux. On a eu des contacts ou des gens qu'on connaissait à qui on a proposé de participer si ça les intéressait, ou même des demandes spontanées de gens qui proposaient de participer via la rédaction d'un article ou autre au site. Et on s'est retrouvés 2, 3, 4, 5, 6 jusqu'à l'équipe actuelle. On a eu beaucoup de contributeurs très occasionnel au fil des années, et puis on a une équipe principale assez solide qui compte une douzaine de personnes.
Au-delà de l'aspect fédérateur du magazine auprès des amateurs de musique de film, y avait-il cette volonté de parler à des néophytes, à des gens qui ne connaissent pas la musique pour l'image, et de leur expliquer de quoi ils retournaient exactement?
L'idée, c'est vraiment de parler de la musique à l'image comme étant quelque chose de très intéressant. Donc effectivement, il y a des gens qui savent déjà comment ça marche et qui, eux, ont plus envie d'avoir des informations un petit peu pointues, soit par l'intermédiaire d'une interview avec un compositeur, soit éventuellement par une manière que nous avons d'essayer de décoder à notre manière les musiques. Mais je pense qu'aussi, on revient sur l'idée de donner des pistes en fait à des gens qui effectivement parfois ne comprennent pas comment on peut s'intéresser en fait à la musique de film, qui parfois même arrivent et disent jusqu'ici je savais même pas qu'il y avait de la musique dans le film, parce qu'ils ne s'en rendaient pas compte en fait, tout simplement. Et à eux, c'est bien aussi de donner justement des petites pistes de réflexion qui font qu'ils vont percevoir les films autrement et s'intéresser à cette partie un peu spéciale qui est la mise en musique de l'image.
En 10 ans, est-ce que vous avez identifié une tranche d'âge particulière auquel le magazine Underscore peut s'adresser, ou est-ce que finalement vous adressez à des publics extrêmement différents?
Si on en croit les statistiques de Google Analytics, effectivement, on touche toutes les tranches d'âge. Après, il y a un renouvellement naturel, il y a pas mal de jeunes, et ça c'est vraiment un des points positifs d'avoir vu comment ça évolue au fil des années, c'est qu'une grande partie de la communauté, c'est quand même des jeunes. La relève, en fait, est déjà assurée pour demain.
Et est-ce que cela a influencé la manière dont vous avez traité les sujets, les thématiques, peut-être même le choix de traiter certains compositeurs parce que vous privilégiez cette cible?
Non.
Jamais.
On n'en fait qu'à notre tête, en fait. Alors déjà, il y a une gestion assez libérale, on va dire, de l'équipe, c'est-à-dire que tout le monde propose des articles, tous ceux qui veulent en faire. Il y a très très peu de contraintes. On n'est pas à dire, il faudrait que tu nous fasses un texte sur tel ou tel truc, à part s'il y a un projet spécifique, un dossier spécifique, on peut éventuellement faire appel à tout le monde. Mais c'est toujours une base de bénévolat, évidemment, personne n'est payé. Et tout se fait toujours à l'initiative de l'équipe de rédaction, et il n'y a pas de direction donnée, en fait.
À chacun de se faire plaisir, en fait. C'est vraiment l'idée est toujours de faire découvrir, encore une fois. Donc même nous, entre nous, certains vont proposer un article et on va se dire « Ah oui, c'est quelque chose à laquelle je n'aurais pas forcément pensé », et que ce soit dans l'approche ou la thématique abordée. Donc ça, c'est toujours quelque chose de très intéressant, et c'est quelque chose à laquelle il ne faut pas mettre un frein, justement.
Est-ce que vous vous souvenez du premier article que vous avez écrit pour Underscores? Article original, et non un recyclage de parution plus ancienne.
Oui, c'était l'édito de lancement du site.
Premier édito de lancement du site. Ceci étant dit, juste avant, j'avais déjà fait un article original, c'était la chronique de l'orphelinat de Fernando Velázquez. que j'avais écrite spécialement pour le lancement du site, donc qui était déjà écrite avant, quelques semaines avant le lancement lui-même, et l'édito. Et effectivement, oui, j'ai un grand souvenir de l'édito que j'ai écrit, dans lequel, je suppose que les gens s'en souviennent, je mettais un petit peu le site sous l'égide de Michael Kamen, qui a été vraiment le début de l'aventure, quelque part, pour Olivier et moi, et ce qui allait devenir Underscore.
Il y a donc d'abord cette rencontre avec Michael Kamen. Et j'imagine qu'au cours des 10 ans d'existence du site, vous avez eu l'occasion de rencontrer d'autres compositeurs. Y a-t-il des moments que vous avez envie de partager avec nous? Des rencontres particulièrement marquantes?
Alors oui, des rencontres, il y en a eu. Alors moi, c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur parce que je trouve absolument passionnant de voir l'homme derrière la musique, ou la femme, hein, quand ce sont des femmes, elles ne sont pas très nombreuses. On en a rencontré quelques-unes, mais ce n'est quand même pas la majorité. Mais oui, de voir d'où vient cette créativité, et qui sont ces gens qu'on admire dans les salles de cinéma avec les oreilles grandes ouvertes, et puis aussi de voir comment fonctionne ce petit monde de l'autre côté, en fait. On a effectivement beaucoup rencontré de monde, beaucoup appris. Après, il y a des rencontres privilégiées de gens qui sont même parfois devenus des amis. On a été globalement assez bien reçus par la profession. Alors plus à l'étranger qu'en France. La France a mis un peu plus de temps. Je ne sais pas pourquoi, je dirais que nul n'est prophète en son pays. Pour convaincre la France qu'on avait une position légitime, on a un peu plus ramé. Par contre, dès qu'on est allé en Espagne, en Pologne, aux États-Unis, ça a été toujours très positif en termes d'expérience. Alors donc les rencontres, je ne sais pas, on va en citer que quelques-unes parce qu'il y en a eu beaucoup. On a fait aussi énormément d'interviews. D'ailleurs, vous serez à la fois heureux et frustrés de savoir qu'il y a beaucoup d'interviews qui ont été faites qui n'ont jamais été publiées pour des pures raisons d'agenda, parce que ça prend un temps fou, qu'on n'a pas du tout renoncé à le faire et que vous en verrez certainement apparaître dans les mois qui viennent sur Underscores. Donc, pour citer une rencontre, moi, je dirais Christopher Young, qui est un personnage complètement exubérant, complètement fou, d'une humanité exceptionnelle et qu'on a rencontré à maintes reprises, qu'on est ensuite allé voir à Los Angeles. S'il y a un deuxième parrain d'Underscores, ce serait lui. Et d'ailleurs, il nous avait fait un joli message en vidéo pour le dire qu'on avait posté, je crois, à l'époque sur Facebook.
Des rencontres, oui, il y en a beaucoup. Moi, je suis particulièrement content d'avoir pu, par l'intermédiaire du site, rencontrer Bruno Coulet, rencontrer Philippe Rombie. Mais il y a aussi des moments extraordinaires qui sont gravés. Ces moments qui nous ont permis, par exemple, d'assister à des répétitions d'orchestre, notamment au Festival d'Ubeda. Moi, je me souviendrai longtemps d'avoir assisté à justement la suite de l'Orphelinat de Fernando Velázquez, assis juste devant le chœur. Ça, c'est un moment absolument vibrant. Et puis, je crois que la scène, enfin la séquence doit être visible quelque part. Voir Joël McTinney diriger Frankenstein ou Patrick Doll donner ses recommandations à l'orchestre en décrivant la scène, c'était absolument, absolument génial. C'est un des plus grands souvenirs que j'ai de ces 10 ans.
Mais en fait, si on commence à partir sur les souvenirs, sur les personnes qu'on a rencontrées, et sur les moments qu'on a vécu, on n'a pas fini. Et vous allez pas écouter le podcast jusqu'au bout parce qu'on en a pour des heures. Donc on va éviter de rentrer trop dans le détail. Moi j'ai envie de citer plein de gens, mais je ne vais pas le faire. Enfin, j'ai vraiment personnellement le sentiment que ça a énormément enrichi ma vie depuis la création du site. J'ai vécu des trucs incroyables qui ne seraient jamais arrivés avant. Par exemple, c'est pas rencontrer John Williams, aller passer une journée entière chez Philippe Sard, des choses comme ça qui en elles-mêmes mériteraient presque un podcast pour le raconter. On est bénévole, on n'est pas payé, ça nous coûte même de l'argent de faire ça, mais qu'est-ce qu'on est récompensé.
Au cours de ces 10 dernières années, vous avez fait évoluer le site, notamment sur le plan de la présentation même du site. Vous pouvez nous en parler un petit peu?
Bah déjà, on a essayé d'évoluer un peu avec la technologie. On a fait évoluer le site plusieurs fois, jusqu'à une nouvelle version qui date d'il y a, je dirais, environ 3 ans. Oui. Sachant qu'il y a une autre refonte dans les tuyaux pour être un peu plus adapté, entre autres, à toute la génération mobile, les smartphones et les tablettes. Et puis, il y a pas mal de choses qu'on voudrait modifier ou ajouter, mais je les détaillerai peut-être plus tard.
Est-ce qu'il y a des choses dans le site qui ont évolué par la musique elle-même? Je sais pas. Forcément, on a instauré des sortes de routines dans ce qu'on faisait. On a instauré des rubriques qui reviennent maintenant et depuis longtemps, toutes les semaines. On essaie de suivre l'actualité beaucoup plus qu'au début du site. C'est vrai qu'au début, ce qu'on appelait les news était très très rare. Aujourd'hui, on essaye un petit peu de suivre au plus près l'actualité quand on peut. Évidemment, c'est du bénévolat, donc on fait un petit peu ce qu'on peut. Sur le net, tout va très vite. Donc on essaye de trouver quelque chose qui fasse que ça va être intéressant à la fois à faire pour nous et à lire pour les lecteurs. Il y a un certain nombre de rubriques aujourd'hui, effectivement, qui sont devenues des rendez-vous, je pense, incontournables. Je pense notamment à l'Underscore Armin, qui traite tout de même de entre 30 et 50 parutions de CD par mois, ce qui est quand même assez unique, en fait, de la manière dont on l'a fait. Puisque à chaque fois on a entre, on va dire, 3 et 6 avis différents. Et ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place depuis 2012, si je me souviens bien, et qui est devenu une espèce de routine agréable à faire, qui nous occupe énormément.
Agréable, mais un peu contraignante aussi. L'Underscorama, c'est né d'une envie, effectivement, de traiter l'actualité et d'aller un peu au-delà de simplement... les gros films du moment, les grosses sorties en disque du moment, le dernier John Williams, etc. Parce qu'on avait une envie de découvrir aussi d'autres choses, et peut-être même de découvrir des gens, et donc par extension faire découvrir. Alors j'espère qu'on y arrive un petit peu. Après, le Underscorama, c'est quand même un sacerdoce. Alors ce que vous savez pas, c'est que, comme disait Florent, il y a entre 30 et 50 albums par mois, mélangés entre les rééditions et les pures nouveautés, mais à la source, il y en a beaucoup plus. Puisque, tu vois, tu demandais à Stéphanie ce qui avait évolué depuis le lancement du site. L'avènement de la musique en digital, sans pour autant qu'il y ait de sorties physiques pour la plupart d'entre eux, fait que tout le monde peut sortir un score, quasiment tout le monde. On n'a plus le problème qu'on avait dans les années 80, par exemple, où des musiques de films prestigieuses n'avaient aucune édition en disque, je pense... Die Hard, à Predator, des choses comme ça qu'on a dû attendre pendant des années avant que quelqu'un se décide à les éditer. Là, c'est plus le cas, on ne se plaint plus jamais en disant « Oui, mais tel truc, ça sort pas. » Tout sort. Même si ce n'est qu'en digital, tout sort. Le truc, c'est qu'on arrive à en récupérer beaucoup parce qu'on en achète, parce que certains des éditeurs les partagent avec nous, et qu'après, pour faire le programme de l'homme dans Squarama, on est obligé de trier. Alors, j'ai bien peur de devoir dire que c'est moi qui me colle... À ce job-là. Évidemment, il y a des incontournables qui seront de toute façon dans la sélection, qu'ils soient bons ou mauvais, parce qu'ils sont par essence incontournables. Je pense à... Non, je vais citer personne. Comme ça, je vais rester ami avec tout le monde. Mais j'écoute aussi tout le reste, tous ceux qui ne seront jamais sélectionnés et qui ne le sont pas souvent pour des bonnes raisons. Voilà.
Il existe une rubrique qui recense l'ensemble des sorties chaque mois?
En fait, il y a une rubrique hebdomadaire qui est aussi compilée en rubrique mensuelle et qui recense effectivement toutes les sorties de presque partout dans le monde. Je dirais à part au Japon, parce que c'est un peu compliqué en termes de langue de suivre ce qui se passe là-bas. Mais pour tout le reste, on annonce tout et c'est le travail de titan de notre camarade Olivier Rouillet de savoir tout ce qui sort dans le monde et tout ce qui est mis à disposition chaque semaine à portée du porte-monnaie des amateurs de musique de film.
Quel que soit le format, que ce soit format CD, digital, vinyle.
Tout à fait, on a été obligé de suivre le mouvement du digital qu'on ne peut pas ignorer. Je sais que beaucoup d'amateurs de musique de film sont encore attachés au support physique et d'ailleurs le retour d'une certaine manière du vinyle le souligne un peu plus, mais l'avenir pointe quand même sur le digital et la dématérialisation. Et une fois de plus, c'est un mouvement qu'on ne pourra pas enrayer et qui va continuer à prendre de l'ampleur, donc bien évidemment qu'il faut en tenir compte.
Ce qui signifie que même si vous ne traitez qu'une petite partie de ces parutions dans le cadre de l'Underscorama ou d'articles plus approfondis, l'ensemble de ces sorties est annoncé sur Underscores.
Absolument. Malheureusement, on ne peut pas parler de tout. Il faudrait qu'on soit une équipe de 50 personnes. D'ailleurs, les recrutements sont ouverts. Hein. Si vous avez une bonne plume et que vous avez envie de participer à l'effort de guerre, vous êtes les bienvenus. Mais on est obligé de laisser des choses de côté. De même qu'on ne peut pas non plus voir toutes les musiques avec les images pour lesquelles elles ont été écrites. C'est absolument pas possible. On le privilégie dès que possible. Voir absolument tout ce qui se fait et entendre tout ce qui se fait, c'est juste une mission impossible.
Selon vous, qu'est-ce qui a changé dans la musique pour l'image au cours de cette décennie par rapport aux décennies précédentes?
Si on reste dans la conversation qu'on avait autour de l'Underscorama, je pense qu'on a été obligé de revoir notre échelle de valeur, quand je dis vraiment obligé. C'est-à-dire que si on gardait la même graduation d'excellence qu'on avait dans les années 80, voire dans les années 90, les scores d'aujourd'hui, dans le cadre par exemple de l'Underscorama, ne dépasseraient jamais quasiment la moyenne. Je mets bien évidemment de côté les rééditions. Il y a très très peu de choses qui arrivent au niveau d'excellence de ce qu'on a connu à une époque. Heureusement, il y en a quand même. Donc tout espoir n'est pas perdu, mais c'est clair qu'on a vécu en direct dans les salles de cinéma une taylorisation de la musique de film telle que le média ne l'avait jamais connue avant. Alors on peut évidemment pointer du doigt le pauvre Hans Zimmer, mais en fait, c'est pas uniquement de son fait, ne serait-ce que parce que lui a proposé une solution qui répondait à une attente des producteurs. Je crois que le plus gros problème actuel en termes d'usage de musique à l'image, c'est d'une part l'inculture musicale des décideurs, des producteurs, des réalisateurs, leur malaise vis-à-vis de l'impact que peut avoir la musique et du rôle qu'ils lui accordent. Et puis il y a aussi une raison purement technique. Un film peut être au montage jusqu'à la veille de la sortie, il n'y a pas de version définitive sur laquelle les compositeurs peuvent travailler, donc ils ont été obligés d'adapter à la fois leur manière de bosser et leur manière de composer, de construire les morceaux, parce que ça peut être monté, édité, charcuté dans tous les sens jusqu'au dernier moment. Ils sont obligés de prendre ça en compte à l'avance, donc ça a changé quand même pas mal de choses. Cette contrainte technique fait que la créativité ne peut plus fleurir aussi bien qu'elle le faisait dans les années 60, 70, 80.
Êtes-vous d'accord avec l'idée que, en dehors de la musique symphonique ou de la musique thématique, point de salut pour la musique de film ?
Non, je suis pas d'accord avec ça. Ça n'est pas parce que c'est symphonique que c'est bien. On a des musiques entièrement synthétiques, électroniques, tout ce qu'on veut, qui sont d'un niveau tout à fait comparable avec n'importe quelle symphonique. Le problème n'est pas là, à mon avis. Le problème est qu'à une époque, une musique contribuait à donner au film une personnalité unique. Et que c'est de moins en moins le cas maintenant, de par le côté interchangeable de ces musiques, et même s'il y a des constructions thématiques, la thématique elle-même est tellement influencée par la musique temporaire, par les tendances du moment, parce que les réalisateurs et les producteurs veulent entendre, c'est-à-dire peu ou prou un décalque du dernier succès précédent dans le genre de film qu'ils sont en train de faire. Et du coup, les films peinent à trouver une personnalité et la musique ne les aide pas à ça. Alors qu'à une époque, c'était tout à fait l'inverse. Alors bien évidemment qu'il y a encore heureusement des exceptions, sinon je pense qu'on aurait fermé boutique depuis longtemps.
Donc vous n'avez pas un discours passéiste ?
Ah non, moi j'y crois toujours, c'est pour ça que je continue à essayer de découvrir des gens. Il faut jamais être trop prompt à condamner les artistes, même quand ils font des choses pas forcément recommandables, sans avoir au préalable creusé un peu les choses, quand on peut, avec eux d'ailleurs. Quand on parle avec des compositeurs, on voit dans quelles conditions ils travaillent, quand on voit la difficulté du dialogue avec les personnes qui font les films, qui sont en l'occurrence réalisateurs et producteurs, bah c'est difficile de les condamner parce qu'on se rend compte qu'ils ne pouvaient pas toujours faire autrement et que beaucoup essayent de faire au mieux, malgré un manque de dialogue et clairement, ça c'est vraiment une tendance aussi, un manque de moyens. Il y a de moins en moins d'argent et de moins en moins de temps consacré à l'élaboration de la musique d'un film ou d'une série ou d'un support visuel quelconque. À la fois les conditions techniques ont été drastiquement modifiées. Ça rend d'ailleurs les choses compliquées pour des compositeurs de l'ancienne génération qui ont plus de mal à se plier au jeu qui est maintenant un acquis pour les productions, c'est-à-dire de faire des maquettes super détaillées de tout ce qu'ils font pour faire approuver leur musique, alors que à une époque le réalisateur avait juste entendu plus ou moins la thématique au piano, et tout le reste, il le découvre aussi, son enregistrement. Ça, c'est plus le cas. Tout ce qui est enregistré est déjà validé à l'avance sous forme de maquette. Donc, il y en a qui ont plus de mal à le faire parce que technologie, parce qu'il faut des assistants pour les aider.
Puisqu'on parlait tout à l'heure de s'adresser à des personnes qui ne connaissaient pas forcément la musique pour l'image, il y a aujourd'hui, en tout cas dans les grandes villes, beaucoup de ciné-concerts organisés peut-être dans cet objectif-là. Vous en pensez quoi de ça ?
Pour ce qui est des concerts, des ciné-concerts, et d'une manière générale, tout ce qu'il y a autour de la musique de film, le nombre de festivals qu'on a pu voir un petit peu partout fleurir, parfois pour une ou deux éditions, parfois pour plus longtemps, c'est quelque chose qu'on n'aurait pas imaginé déjà de nous il y a 20 ans, 30 ans, ou justement quand on a commencé la première fois que Michael Kamen était à Albinéville, c'était en 99, et c'était un événement tel que toute la petite communauté de musique de film s'est retrouvée là-bas. Aujourd'hui, on a une pléthore d'événements par rapport à ça. Moi, personnellement, je trouve que c'est très bien, même si je ne suis pas particulièrement très fan des ciné-concerts, parce que je trouve que c'est une manière un peu biaisée. Certes, on fait un focus sur la musique, mais quelque part, c'est un petit peu parasité par le fait qu'on va voir le film avant d'écouter la musique, en fait, réellement. Je suis pas certain que tous les gens qui vont voir un ciné-concert voient autre chose qu'un film, en fait, avec une musique en live, mais bon, ils vont pas spécialement s'intéresser plus au médium. Moi, je suis plus intéressé justement par les rendez-vous des festivals avec des concerts proprement dit, de suite, de choses arrangées pour le concert.
Oui, j'espère que on a eu une petite part, une petite contribution à cette prise de conscience de l'importance de la musique à l'image, qui effectivement est à la hausse globalement depuis qu'on a commencé le site. Peut-être que c'est un hasard, d'autant que ça n'est pas arrivé qu'en France, puisqu'on a vu fleurir des festivals partout. Dans les pays de l'Est, en Allemagne, en Pologne, en Espagne beaucoup. Il y a eu une espèce de mouvement vers le haut. On a eu la chance d'arriver à ce moment-là, en fait. C'est notre souhait et notre rôle d'essayer de contribuer à soutenir justement toutes ces initiatives, à les faire connaître. Et on espère qu'on pourra même participer plus avant un jour à l'organisation d'un festival ou ce genre de choses.
Et à votre avis, à quoi est dû ce nouvel intérêt de la part du public ? Pour la musique live sur un film ?
Le problème est peut-être la musique classique en France, tout simplement. C'est-à-dire que beaucoup de festivals marchent très bien, mais il y a aussi toute une frange de population qui ne va pas au concert classique. Et c'est aussi un moyen de toucher les gens. Certains disent que la musique de film est la musique classique d'aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est réellement vrai, mais je crois que ça touche, d'un point de vue des émotions, beaucoup de gens. Et c'est ça qui fait qu'il y a eu un boom de tous ces ciné-concerts, de ces festivals. On a vraiment découvert plus en avant la musique de film. Il y a un côté décomplexé, en fait, finalement. On n'a plus une barrière qui fait qu'on estime que la musique de film est une musique secondaire, est une musique bas de gamme, au rabais. Je crois qu'il y a des générations de chefs d'orchestre, de musiciens aujourd'hui dans les orchestres qui ont grandi avec les musiques de film et en fait qui ont vraiment ce rapport de passion et d'amour pour les musiques de film. Et qu'eux ont beaucoup contribué à ça, et c'est leur moment. Ils sont là, ils sont dans les orchestres, ils sont en train de diriger, et il y a vraiment une volonté de présenter la musique de film comme étant un vrai vecteur d'émotion.
Qu'est-ce qu'on peut faire de plus aujourd'hui pour faire découvrir la musique pour l'image au grand public ?
D'abord, je crois qu'il y a certainement beaucoup de plus à faire, en fait. Aujourd'hui, certainement pour des raisons de économiques, tout simplement, on va choisir des films très connus, des compositeurs, on va pas dire à la mode, mais en tout cas qui ont encore une certaine résonance auprès du plus grand public. Et je pense qu'il y a tout un pan, au contraire, quasi historique de la musique de film en France, qu'il faudrait beaucoup plus redécouvrir. Moi, je suis toujours étonné que Georges Delerue, par exemple, soit un compositeur qui a complètement ignoré des salles de concert. Le seul concert, à ma connaissance, qui a été fait dernièrement, c'était pour l'anniversaire de son décès en 2012. Aujourd'hui, je pense que quelqu'un comme Georges Delerue, que ce soit à travers ses musiques de films, des suites de concerts, mais aussi certaines de ses musiques classiques, car il en a écrit énormément, à sa place à la Philharmonie de Paris, par exemple. On a peut-être ce rôle-là, quelque part, même s'il est extrêmement modeste, d'essayer de sensibiliser à ces musiques qui feraient d'excellents programmes de concerts. Et peut-être que là, il y a quelque chose à creuser plus en avant et que de s'arrêter à ce qui est finalement encore assez superficiel.
le fait est que c'est vrai qu'il faut profiter du mouvement parce que, comme disait Florence, ces musiques-là, les musiques de films ou les musiques de télévision, parce que c'est important aussi, ne sont plus autant regardées de travers qu'elles ne l'étaient il y a 15 ou 20 ans. La musique de film a finalement réussi à entrer dans les salles de concert, a réussi à rentrer à la Philharmonie, il y a des concerts tous les ans, on a eu Alexandre Desplat, on a eu Gabriel Yared, John Williams évidemment, on aura Joe Hisaishi l'année prochaine à la Philharmonie également. C'est le signe qu'il n'y a plus tout à fait les mêmes barrières qu'il y avait à une époque. Donc il faut continuer à enfoncer les réticences du monde classique. Il ne devrait pas y avoir de véritable distinction. La bonne musique, c'est de la bonne musique, quelle que soit la raison pour laquelle elle a été écrite. Je veux dire, à une époque, Mozart enchaînait les œuvres de commande comme un compositeur de film le fait maintenant. Il le faisait parce qu'il était payé pour ça. Donc il n'y avait rien de sale à faire ça à l'époque, il n'y a rien de sale maintenant. Et c'est pas parce que ça, un compositeur a été payé pour entendre sa musique sur un film qu'elle a moins de valeur qu'un auteur qui se torture dans la composition d'une œuvre de concert qui ne sera jamais jouée. Il faut arrêter cette distinction.
Il y a quelque chose d'assez paradoxal aussi par rapport à ce rapport, donc justement les ciné-concerts qui explosent, les festivals, etc. Et l'autre tâche un petit peu d'Underscore, c'est aussi de promouvoir la musique dans les films, notamment en France. Il y a toujours une grande frilosité des réalisateurs à faire appel à un compositeur pour créer une musique originale, à faire confiance au compositeur, surtout à lui laisser artistiquement les on va pas dire les coups des franches parce que c'est pas le but, mais en tout cas de faire une collaboration artistique qui ait du sens pour le film. Et ça, c'est toujours quelque chose qui n'existe, enfin, qui a du mal à exister en France. On sait qu'il y a des barrières. Et ce qui est paradoxal, justement, c'est que d'un côté, on a cet élan vers la musique de film pour le public, et encore une fois, ces réalisateurs qui, dans la plupart des productions françaises, ont du mal à faire confiance à la musique, tout simplement. Donc ça, je pense que c'est aussi quelque chose qu'on doit faire à Underscore, c'est-à-dire de promouvoir la musique comme un élément artistique du film, comme il doit être. C'est rappelé régulièrement par des organismes comme l'UCMF, comme la SACEM. Le compositeur est le troisième créateur du film, le troisième auteur du film, après le scénariste et le réalisateur. Je crois que c'est quelque chose, d'autant plus en France, qu'il faut absolument promouvoir.
Oui, nous on a mis des guidelines, je dirais. On ne sort pas de la musique pour l'image parce que c'était un peu le concept de départ. Par contre, la musique pour l'image, l'image étant en perpétuelle évolution, la musique doit suivre également. Et il y a des choses qu'on commence à peine à découvrir, comme par exemple ce que sera la musique pour des productions en réalité virtuelle. Ça va avoir un impact non négligeable sur la façon de travailler, puisque plus le spectateur a une liberté large, plus la musique va devoir s'adapter à ça, tout en restant pertinente. À mon avis, on n'est pas au bout de nos surprises sur ce que nos amis les compositeurs vont arriver à tirer de ces avancées technologiques. Donc, je pense qu'il y a pas mal de choses à découvrir à l'avenir encore qu'on n'arrive même pas à envisager pour l'instant.
Dans 10 ans, Underscore, ce sera quoi ?
Je sais pas, tu nous aurais demandé il y a 10 ans si on pensait qu'on serait encore là 10 ans plus tard, on aurait dit non. Donc je veux pas faire la même erreur, peut-être qu'on serait encore là, peut-être qu'on aura encore grandi, on va essayer d'évoluer, on a pas mal de projets au-delà d'une énième refonte du site, entre autres, je peux pas trop rentrer dans le détail. On aimerait bien pouvoir mettre un peu plus de musique sur le site parce que finalement, on parle de musique, mais on en entend assez peu. On aimerait bien continuer aussi, sous une forme ou une autre, une rubrique qui a été pas mal suivie pendant un temps, qui consistait à analyser le mariage entre la musique et l'image sur des séquences clés. Donc ça, c'est des choses qu'on aimerait bien développer d'une manière ou d'une autre. Il y a plein d'autres trucs. Après, il faut quand même qu'on vous laisse un peu de surprise. On a aussi quelques idées pour célébrer nos 10 ans. Entretien avec nous n'étant qu'un des aspects de cette célébration. Je voudrais en profiter aussi pour envoyer un message d'amour et de reconnaissance à tous les gens qui nous suivent depuis ces 10 ans, tous les gens qui nous soutiennent, donc évidemment nos chers lecteurs qui ne nous ont jamais abandonnés, les membres de la profession qui, comme je disais plus tôt, nous ont bien accueillis, nous ont soutenus, nous ont aidés et qui pour la plupart sont extrêmement bienveillant vis-à-vis d'une entreprise comme Underscores. Et puis, bien évidemment, et surtout, il faut remercier tous les rédacteurs et contributeurs bénévoles qui ont participé depuis toutes ces années à faire d'Underscore ce que c'est encore aujourd'hui.
Je tiens particulièrement à remercier le noyau dur de l'équipe, tous ceux sans lesquels le site ne serait pas ce qu'il est. Et donc, je vais tous les citer. Stéphane Abdallah, Pierre Braillon, Baptiste Brilac, Sébastien Félins, Olivier Galliano, Benjamin Josse, Milio Latimier, Christophe Magnez, Olivier Rouillet et Olivier Soudé. Voilà, merci à tous et j'espère que vous serez encore tous là pour les 10, 20, 30 années à venir.
Nous arrivons au terme de cet entretien. Merci à tous les deux d'avoir participé. Et c'est donc la fin du tout premier podcast Underscores, sans doute pas le dernier. On espère vous retrouver très vite.